Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui nous parlons de notre bonne vieille planète, la Terre, et du comportement de celui qui l'habite, mais aussi l'abîme, l'homme. Savez-vous que le mot écologie a été formulé pour la première fois par un zoologiste allemand en 1863, que le mot environnement n'apparaît que dans les années 60, et qu'enfin l'expression développement durable, elle, n'a été adoptée que dans les années 80. Le développement durable, c'est le sujet que nous allons aujourd'hui évoquer avec M. Marcel Boiteux, qui a dirigé le gros ouvrage 530 pages, un ouvrage collectif, L'homme et sa planète, paru aux éditions PUF. Monsieur Boiteux, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes président d'honneur de EDF, Électricité de France. Vous étiez en 2002 le président de l'Académie des sciences morales et politiques. Et je crois que c'est à ce titre que vous avez encouragé les communicants à produire ce livre. Racontez-nous sa genèse, cet ouvrage.
Bien, tout d'abord, il y a le fait que pour être élu président de l'Académie, il faut d'abord être élu vice-président un an avant. Mm-hmm. Et au moment d'être élu vice-président, on essaie de savoir un peu quel genre de thème sera traité au cours de l'année présidentielle. C'est donc, non pas en 2002, mais même au début 2001, sinon fin 2000, que j'ai discuté avec quelques-uns de mes confrères du thème que l'on choisirait. Et donc, nous avons choisi ce thème de développement durable il y a presque 3 ans maintenant, à une époque où on en parlait très peu. Ça paraît banal aujourd'hui, car il y a eu à Johannesburg une réunion qui a eu beaucoup d'écho, mais il y a 3 ans, on en parlait relativement peu. C'était donc un sujet qui me paraissait mériter plus d'attention que l'on donne habituellement. Alors cela dit, je suis peut-être un peu marqué par mes origines, parce qu'il se trouve que mon père et ma mère étaient tous les deux professeurs de sciences naturelles, donc moi je suis écologiste de naissance.
Alors que faut-il entendre par développement durable? Je sais qu'il y a une définition officielle, mais donnez-nous peut-être une définition au fond simple.
La définition officielle, dont je ne connais pas les termes exacts, mais dont la philosophie est la suivante, me paraît quand même assez bonne, c'est de dire il faut que les hommes d'aujourd'hui vivent bien, certes, mais sans compromettre la vie des hommes de demain. Ce qui me paraît une présentation tout à fait raisonnable.
Oui, c'est raisonnable. Donc on s'étonne que ça n'existe, ça ne se pratique pas, parce que jusqu'à présent, il y a quand même des menaces qui pèsent sur demain.
Oui, mais il faut penser que le problème est relativement récent, parce que pendant très longtemps, la Terre était apparue tellement immense à l'humanité qu'on ne pensait pas du tout qu'il puisse y avoir une limitation quelconque. La Terre paraissait immense, donc on pourrait toujours trouver plus loin ce qui vous manquait. L'atmosphère paraissait gigantesque et personne n'aurait eu l'idée qu'en émettant des gaz plus ou moins fâcheux, on risquait de remettre en cause l'équilibre naturel de la Terre. Donc il y a à peine un demi-siècle que cette prise de conscience devient un peu prégnante. Avant, il y avait quelques personnes qui y avaient songé de façon un peu théorique, mais on ne le savait pas, on ne se rendait pas compte.
Et donc le développement durable prône un équilibre entre les différentes formes de progrès.
C'est-à-dire que le développement durable n'est pas seulement une dimension environnementale, comme trop souvent on tente à le laisser penser. En réalité, il s'agit de concilier le développement économique, et qui était souvent mené par des entreprises menant leurs affaires de façon assez égoïste, et puis l'aspect social, car des gens riches mais malheureux, enfin quelques gens riches et beaucoup de malheureux, c'est pas non plus un développement souhaitable. Et donc un équilibre entre l'économique et le social, et en même temps, dès lors que la Terre voyait ses ressources limitées par rapport aux besoins et aux projets des hommes, le problème de l'environnement. Et donc le développement durable, ça consiste à organiser un développement qui concilie, qui apparie en quelque sorte le développement économique, le développement social et le développement environnemental, de telle manière qu'aucune de ces préoccupations étouffe les deux autres.
Et je voudrais citer une phrase de votre introduction, puisque vous avez fait une longue et intéressante introduction dans cet ouvrage dont je rappelle le titre « L'homme et sa planète » paru aux éditions PUF. Cette phrase, je la trouve très, très humaniste et je voudrais vous la dire. Le développement durable, c'est permettre à tout être humain de vivre convenablement l'instant d'éternité que lui offre son passage sur Terre. Je trouve que c'est une philosophie qui vous est personnelle.
J'ai trouvé qu'il y avait, dans cette phrase, il y a de nombreux messages.
Oui.
Il y a l'instant d'éternité.
Mais l'instant d'éternité me plaît beaucoup, parce que ça a l'air de dire que l'éternité, ça va continuer après. Enfin, je ne sais pas.
Oui, c'est un problème de nature religieuse. C'est peut-être à mon vieux fond protestant qui ressort dans cette expression-là. Et d'autre part, cette idée qu'il faut que tous les humains qui vont passer sur cette terre puissent avoir, dorénavant, le passé est le passé, un sort acceptable, un sort convenable, ce qui n'est pas le cas actuellement, il s'en faut
non,
de beaucoup.
Vous comparez d'ailleurs la Terre à un vaisseau spatial dans lequel il y aurait cinq passagers. L'un des passagers absorbe à lui seul 80% des ressources et il est responsable des trois quarts des pollutions. Les autres, les uns survivent, les autres font ce qu'ils peuvent.
C'est vrai que quand on présente la chose sous cet angle-là, il n'y a personne qui ne puisse dire vraiment c'est scandaleux. Quand on leur dit la Terre c'est comme ça, vous remplacez un astronaute par 1 milliard de personnes et vous trouvez qu'effectivement, il y a un peu plus d'un milliard de personnes qui vivent très bien, malgré leurs petits problèmes, mais leurs problèmes psychologiques. Et puis qu'à l'autre bout, il y a 2 milliards qui vivent très mal, dont quelques centaines de milliers qui meurent chaque année.
Oui.
Et ce qui paraît scandaleux quand on pense à 5 personnes dans un satellite, on s'y est peu à peu habitué quand on pense à ce satellite énorme qu'est la Terre, qui se balade à travers les étoiles. Et il y a peut-être raison de se scandaliser de cette situation.
Oui. Au fond, il ne faut pas s'habituer à cette situation. Il faut la juger inacceptable et prendre des mesures.
Je pense qu'il faut effectivement la juger inacceptable pour essayer de prendre des mesures. Ce n'est pas facile. Il faut se rendre compte que ce n'est
pas
facile. Et que la gestion de quelques milliards d'hommes est finalement moins simple que la gestion de 5 astronautes.
Sans doute.
Et donc, ce n'est pas facile. On peut très bien imaginer, et beaucoup, même les plus riches de nos contemporains seraient d'accord pour dire qu'on pourrait vivre très bien en dépensant moins. Il est clair que nous nous porterions beaucoup mieux, nous tous Français, si on mangeait moins.
Par exemple.
Et donc, il y a un certain nombre de dépenses qui sont soit inutiles, soit même de pure ostentation, dont on pourrait se passer. Et on pourrait imaginer, dans un monde idéal, que ces dépenses dont on se passe, on puisse les transférer sur les populations les plus pauvres de la planète, qui, avec ce que nous économisons, pourraient faire vivre 30-50 personnes. Et comment faire en pratique?
Voilà, c'est très difficile. Dans cet ouvrage, donc, L'Homme et sa planète, paru aux éditions PUF, les intervenants sont donc ceux qui ont fait des communications à l'Académie des sciences morales et politiques durant l'année 2002. J'en ai compté 30. Vous avez choisi des académiciens. Je dis Michel Albert, Gabriel de Breuil, Jacques Dupaquier, Lucien Israël, Jean-Marie Zim. Des ministres anciens, Alain Juppé et Michel Rocard. Un nouveau qui est devenu un premier ministre, oui. Un nouveau qui est devenu ministre entre-temps, c'est Luc Ferry. 2 femmes seulement, j'ai noté, Dominique Dron et Geneviève Ferronne, et plusieurs intervenants de haut rang, en général dirigeants de grandes entreprises françaises. Quelle a été votre relation de travail avec toutes ces personnes? Comment établissiez-vous leur programme? Comment vous mettiez-vous d'accord avec eux pour le contenu de leur communication?
Bien, je dois dire que j'ai profité, je veux lui rendre hommage de gage, j'ai profité beaucoup de conseils de Mme Dron, qui, elle, en tant qu'actuellement présidente de la commission pour les faits de Sam, et qui avant dirigeait un service important au ministère de l'Environnement, qui avait un réseau de relations très important dans ces milieux-là, j'ai profité de ses conseils pour atteindre certaines personnes dont je connaissais vaguement de nom et dont je connaissais la réputation, et qu'elle m'a aidé à faire ce choix. Cela dit, je me suis fait plutôt un programme d'abord, et ensuite j'ai cherché des gens qui allaient en face du programme.
Voilà.
C'est tout à fait typique pour, par exemple, la ville. La ville, il me fallait un grand architecte urbaniste. J'ai sollicité M. de Portes-en-Parc, qui a accepté tout de suite. J'ai pensé qu'Alain Juppé, qui avait ses problèmes de tramway, on dit dans les journaux que la vie à Bordeaux devenait infernale. Et voilà tout à fait le genre de personne qui attirera du monde à la séance et qu'en même temps, on va pouvoir nous aussi intéressant. Donc, Alain Juppé a bien voulu s'extraire de ses nombreuses occupations pour nous parler très bien de ses problèmes de maire de la ville de Bordeaux, donc une vieille cité en pleine évolution. Jean-Paul Bailly, à l'époque, était le patron du métro, le transport en commun. C'était absolument sa vocation pour en parler. Et puis ensuite, j'ai même appelé un théoricien, un chercheur du CNRS, pour nous évoquer les problèmes de la dynamique de la ville, qui est un peu plus savant, un peu plus CNRS, un peu moins le langage de tout le monde. Mais ça me parut faire un ensemble intéressant.
Oui, il faut dire que cet ouvrage est donc découpé en 4 grandes parties. Les ressources, alors les ressources qui sont en danger, notamment l'air, l'eau,
l'air,
etc.
Le climat, voilà. L'énergie, la faim,
l'énergie,
etc. Oui.
Les hommes et leurs problèmes aussi, notamment la démographie et le nombre d'hommes sur la planète, les villes, vous venez d'en parler, et les activités économiques. Mais ce livre, en même temps, il dénonce quelques dangers, mais il n'est pas entièrement alarmiste. Je le trouve même plutôt optimiste dans ses conclusions. Les deux conclusions, puisqu'il y a deux intervenants pour conclure, sont assez optimistes. C'est-à-dire, il croit qu'un changement de comportement de l'homme est possible.
Oui, enfin, optimiste, je ne sais pas si Jean-Baptiste de Foucault, qui a le dernier chapitre, qui plaide pour un homme nouveau, est tellement optimiste. Mais son idée, qui me paraît tout à fait raisonnable, c'est qu'il faut arriver à mettre sur le même plan différents types de relations qui ont actuellement un statut très inégal. Oui, Jean-Baptiste de Foucault nous dit qu'il serait temps de mettre sur le même plan les besoins matériels, les besoins relationnels et les besoins spirituels.
Oui.
Alors qu'il est clair qu'à notre époque encore, les premiers l'emportent très nettement sur les suivants et sur les autres. Et je me souviens alors d'un débat il y a très longtemps, ça se passait au commissariat au plan il y a une trentaine d'années, en face de je ne sais quel philosophe, je ne me rappelle plus exactement qui c'était, et qui m'avait dit, alors que je parlais du développement des ventes de chrétiens, il m'a dit, enfin monsieur, on ne peut pas continuer à croître toujours. Et je lui ai dit, oui, mais un jour viendra où la croissance ce ne sera pas matérielle, ce sera la croissance immatérielle, le théâtre, les relations. Il m'avait dit, c'est tout à fait ça. Et effectivement, il faut que peu à peu, la croissance des pays développés s'exerce dans l'immatériel, si on veut pouvoir durer.
Bien sûr. Car
l'immatériel est illimité, lui.
Alors, vous terminez cette réflexion dans cet ouvrage en forme de question. Jusqu'à présent, la science nous a tiré d'affaire, mais aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'on peut avoir foi en la science ou est-ce qu'on peut aussi avoir foi en l'homme ? Avez-vous réglé cette question ? Avez-vous répondu à cette double question ?
Bien, j'ai pris la précaution de citer deux solutions extrêmes, ou bien on fait confiance à la science les yeux fermés. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est ce qu'on aurait pu faire.
Oui.
Car elle nous a toujours tiré d'affaire jusqu'ici. Et l'autre solution, c'est cet homme idéal qui n'a de coucou pour les matériels, qui était perdu de solidarité. C'est donc deux cas tellement extrêmes qui sont invraisemblables. C'est entre les deux.
Que l'équilibre.
Il y a un équilibre à trouver. Je n'ai pas dit exactement à quelle distance de chaque extrême. J'étais déjà trop imprudent, mais c'est clair qu'il faut trouver quelque chose entre les deux. Car je ne crois pas que la science suffira à résoudre le problème au point où nous en sommes. Et je crains que nous ne soyons pas encore, avant beaucoup de temps, ces espèces d'anges idéaux qui pourraient se consacrer uniquement à l'immatériel, à l'amour du prochain, pour résoudre le problème. Donc c'est entre les deux qu'il faut trouver quelque chose, entre l'homme avec un H et la science avec un grand S.
Monsieur Boiteau, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'homme et sa planète », qui est un ouvrage collectif paru aux éditions PUF.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant. Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.